Parlons de quelqu'un qui est déjà un ex-politicien, Donald Trump, toujours influent au sein quand même de la vie politique américaine, même s'il n'a pas été réélu pour un deuxième mandat. Son terrain de jeu à Donald Trump, on le sait, ce sont les médias sociaux. Il gouvernait comme aucun autre président avant par l'entremise de Twitter, par exemple, mais était aussi actif sur Facebook. Il a été expulsé de Twitter, expulsé de Facebook pour avoir encouragé de la désinformation, pour avoir encouragé notamment des gens à s'en aller créer une sorte d'acte d'insurrection au Capitole au début du mois de janvier. Là, aujourd'hui, Facebook a annoncé que non, Donald Trump n'était pas autorisé à revenir sur la plateforme. On en parle immédiatement avec Marie-Ève Carignan. Elle est professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle Média à la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Professeure Carignan, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Bien, merci d'accepter notre invitation. Écoutez, expliquez-nous à quel point Donald Trump a pu, disons, faire circuler là, des idées pas mal toxiques dans la vie politique américaine grâce aux médias sociaux.
Et les médias sociaux sont vraiment devenus le fer de lance, puis disons l'image de Donald Trump. Hein, il s'est fait connaître pour ça, il parlait sur les médias sociaux, puis même plusieurs médias d'information aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'on a embarqué dans le jeu en souvent rapportant ce que Donald Trump disait sur Twitter, sur Facebook, puis ça lui donnait de l'attention, hein, surtout sur Twitter, c'était sa plateforme de prédilection. Et là, ce qu'on a vu depuis plusieurs mois, ça a été vraiment un dilemme pour les grandes plateformes entre est-ce qu'on doit bloquer quelqu'un qui a un rôle politique très important, parce qu'il y a le risque de se faire dire qu'on est en train de, dans le fond, de brimer la liberté d'expression puis de contrôler le débat politique, mais en même temps, est-ce qu'on laisse aller un président qui a souvent exprimé sur ces plateformes-là des opinions qui sont parfois méprisantes ou haineuses et des informations qu'on savait très bien fausses, mais qui se permettaient de circuler en ligne. Plein de fake news qui circulaient et qui étaient partagées auprès du grand public qui ne savait pas nécessairement toujours comment départager le vrai du faux dans tout ça. Là.
Semble-t-il qu'il y a eu un effet là, immédiat quand Trump a été éjecté de Twitter, un effet immédiat sur la propagation de la désinformation aux États-Unis?
Mais oui, et surtout que Donald Trump a vraiment changé notre façon de voir le terme désinformation ou ce que lui a appelé fake news. Il s'est vraiment servi du terme fake news pour le modifier. Donc, ce qu'on appelle une fake news normalement en recherche en communication, par exemple, mais c'est de l'information qui est partagée de façon consciente et qu'on sait qu'elle est fausse, mais que des gens vont la partager parce qu'ils ont intérêt derrière ça à mentir pour se faire soit de l'argent, capital politique, social. Mais Donald Trump reprenait ça à chaque fois qu'un média, dans le fond, lui était négatif, mais il disait ça, c'est une fake news parce qu'elle était négative à son endroit. Et donc, il a vraiment semé de la confusion chez le public entre qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai.
Mais ça c'est pas disons la racine de la propagande dans le fond d'essayer de semer un doute dans la tête des gens quant à ce qui est vrai et ce qui est faux.
C'était une façon de contrôler l'agenda public puis d'essayer de montrer que finalement les médias mentaient quand ils lui étaient défavorables. Donc, il a créé beaucoup de méfiance envers les médias d'information. Et forcément, je crois qu'il était un peu pris au dépourvu quand il s'est fait éjecter de ces plateformes-là. Il prenait pour acquis que, comme il avait un rôle important en politique, bien, ces plateformes-là lui étaient dues. Là, on voit qu'il essaie de trouver des nouvelles façons de rejoindre son public en créant des blogs, en diffusant par des communiqués de presse. Donc là, il cherche des stratégies de communication alternatives en attendant d'être possiblement réintégré, hein, parce que ce que le conseil de surveillance de Facebook a dit aujourd'hui, c'est que Facebook serait tenu dans 6 mois. Donc, en novembre, il va falloir regarder ce qui se passe parce qu'ils vont être tenus de réévaluer la situation puis de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, est-ce qu'ils réintègrent finalement Trump ou pas? Est-ce que cette décision-là va être permanente? On voit la même chose, par exemple, du côté de YouTube, hein, qui dit qu'il attend de voir est-ce que le risque de violence va diminuer pour réintégrer Donald Trump sur sa plateforme.
Est-ce qu'en termes de propagateurs de désinformation, il y a des équivalents politiques au Québec et au Canada, des équivalents de Trump?
Pas à ce que je connaisse. Il y a vraiment un modèle particulier Trump. On entend souvent des comparaisons avec le Brésil, par exemple, qui sont servis de ces plateformes-là parfois pour partager de la désinformation puis essayer là, d'orienter le débat public. Ce que Trump a pu faire, par exemple, c'est influencer d'autres politiciens à vouloir se servir beaucoup des médias sociaux pour rejoindre un plus large public puis avoir un discours parfois plus populaire, par exemple.
Populaire ou populiste?
Ça, le débat pourrait être très long à faire là-dessus, mais bon, on pourrait dire populiste, oui.
qu'est-ce qui a mené, rappelez-nous, professeur Carignan, ce qui a mené à l'éjection de Trump de plateformes comme Twitter, Facebook, mais aussi Instagram?
Mais oui, Facebook et Instagram qui appartiennent à la même propriété. Vous l'avez bien dit en début de l'entrevue, ça a duré longtemps les propos de Trump qui souvent débordaient, là, dépassaient les lignes des propos faux. On l'a vu dans le contexte de la pandémie de COVID-19 notamment, mais bien avant des opinions qui parfois pouvaient être très questionnables là, en termes de portée haineuse. Mais c'est vraiment le 6 janvier quand là, il y a eu au Capitole les débordements violents, puis qu'on a vu que le président, sur ses plateformes de réseaux sociaux, avait encouragé les gens qui, donc, contestaient le résultat des élections à se manifester, à se rendre vers le Capitole, et ensuite, plus tard, indirectement, finalement, là, légitimé ces actions violentes-là. C'est là que les plateformes ont dit c'est trop. Le président, par ses plateformes, est en train d'encourager les comportements violents et dangereux, donc on doit bloquer pour protéger la sécurité nationale.
Dernière question, je vous amène sur un autre terrain, là, mais connexe, professeur Carignan. Là. Il y a beaucoup de questions d'hésitation vaccinale. Il y a de la désinformation par rapport au vaccin. Et ce que je me demandais, c'est, disons qu'on était dans une époque où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de médias sociaux. Est-ce que l'hésitation vaccinale serait aussi grande?
C'est une bonne question. L'hésitation vaccinale, il y en a toujours eu. J'ai des collègues qui travaillent en histoire des vaccins, qui se connaissent beaucoup mieux que moi et qui en parlent souvent que l'hésitation vaccinale, c'est pas nouveau. Mais comme dans toutes les informations, les médias sociaux, c'est un vecteur de propagation. Nous, on le voit vraiment dans nos études depuis le début de la pandémie. Il y a un lien, là. Si les gens s'informent par les médias sociaux, en particulier, là, quelqu'un qui commente, partage beaucoup sur les médias sociaux est très présent, mais cette personne-là a beaucoup plus de risques d'être exposée à la désinformation, beaucoup plus de risques aussi d'adhérer aux thèses complotistes, dont, par exemple, les thèses là, sur est-ce que le vaccin est un complot et tout ce qui en découle là, sur l'antivaccination. Alors, c'est sûr que les médias sociaux, c'est un facteur de propagation puis d'adhésion.
Toujours intéressant. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, professeur Carignan.
Avec grand plaisir.